Hello les distordus! Si vous aimez Distorsion, vous allez sans aucun doute adorer le balado Dérive disponible sur Radio-Canada Audio. Tout comme nous, le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard adore démystifier des phénomènes scientifiques et dans la troisième saison du balado Dérive, intitulé « Les secrets de la mafia médicale », Olivier étudie le parcours de ces scientifiques qui ont défendu des idées marginales ou même dangereuses et dévoile leur impact méconnu sur la société. Le tout en s'appuyant sur l'histoire incroyable du chanteur québécois Bernard Lachance, décédé du sida en 2021, maladie dont il niait l'existence. Personnellement, j'ai dévoré le balado d'un bout à l'autre en un week-end, rivé à mes écouteurs. Dérive ainsi que plusieurs autres balados pour tous les goûts, dont plusieurs balados d'enquête et de mystère, sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Téléchargez dès maintenant l'appli Radio-Canada Audio sur les plateformes Apple ou Android. Bonne écoute!
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur
breath play or breath control.
Gotcha.
Whether it be pinching the nose or having the ball gag in the mouth and pinching the nose, choking is popular, or also causing excitement and all of that.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
En 2013, Laura Simonson, une mère de famille de 37 ans, connaît des moments difficiles et se réfugie sur des sites de rencontres.
Après avoir écrit une lettre alarmante à ses proches, elle disparaît en laissant derrière elle ses 6 enfants.
Des analyses de ses activités en ligne laissent croire que Laura courait de gros risques en devenant active sur un site de BDSM.
Au centre de l'enquête, un certain Mr. Handcuffs, un homme mystérieux qui semble connaître les secrets du destin de Laura. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien. On a un sujet très intéressant ce soir.
Oui.
On a eu la chance de réaliser un épisode de télé récemment à propos des prédateurs en ligne.
Oui.
Ces gens qui se tiennent un peu partout sur le web à la recherche de proies. On a déjà couvert des cas similaires dans le passé, comme celui d'Amanda Todd en particulier. Souvent, on a tendance à croire que c'est plus des jeunes ou des adolescents qui se font piéger. Mais dans le cas de ce soir, c'est une mère de famille qui a en fait plusieurs enfants et qui va disparaître suite à une étrange rencontre faite en ligne.
Oui, sur un site de BDSM, enfin un site de rencontre de gens qui ont une préférence pour le sadomasochisme.
Puis c'est aussi un sujet dont on a traité dans un autre épisode de notre série télé à propos du sexe, en fait, sur l'évolution des pratiques sexuelles. Évidemment, à Distorsion, on est ouvert d'esprit, donc le BDSM en soi, ça nous choque pas.
Non,
mais
non.
En fait, ce qu'on se rend compte, c'est on se rend compte que ça a évolué avec l'arrivée d'Internet. C'est de plus en plus facile lorsqu'on a une forme de fétichisme, par exemple, de rencontrer des gens qui sont comme nous en ligne. Et ces endroits-là peuvent être aussi des sources pour des prédateurs.
Dès que tu es derrière un écran, tu sais jamais à qui tu t'adresses de l'autre côté. Hein? Puis souvent, les relations sur les sites de rencontres se développent au fil du temps, mais par chat sans rencontre.
Mm-hmm.
Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent se développer ou que même une influence peut se produire entre les deux, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont pour la... Il y a toujours une première fois à tout. Hein? Puis la première fois, par exemple, qu'une personne peut aller sur un site de BDSM, veut pas, elle doit être nouvelle dans l'environnement, cette personne-là. Et en discutant avec d'autres membres du site, veux pas, j'ai l'impression que ça doit pas te transformer, mais t'attirer et t'amener un peu vers ce monde un peu quand même particulier.
Oui, tout à fait. Puis on sait pas par la suite qu'est-ce qui peut en découler. C'est des pratiques qui peuvent être risquées parfois.
Oui, c'est ça.
Lorsque c'est mal pratiqué et mal encadré. Et puis, vous allez voir, l'histoire de ce soir tourne un peu autour de ça, de cette culture-là. Donc, ça mêle un peu une histoire de mère de famille un peu dépressive, seule, mais aussi sexe, vie secrète et éventuellement éventuellement tout un tournant dramatique autour de cette histoire-là. Vous allez voir, c'est très passionnant, l'histoire de Mr. Handcuffs et de Laura Simonson. Mais pour passer au travers tout ça, aujourd'hui, on a une tournée de vin, Seb.
C'est une première à Distorsion. On a une tournée de vin. On boit le fendant du Valais. C'est un vin suisse du cépage Chasselas. Il est très fruité, puis il y a des petites notes minérales. Il est très, très bon. Ça, en fait, ça nous a été offert par Fiona, qui est elle-même une Suisse, et elle nous l'a offert en main propre au Salon du Livre de Montréal. Donc, merci à toi, Fiona. C'est un grand plaisir de déguster un vin de ta région. Et pour la première fois, tu as comme initié peut-être une nouvelle tendance à Distorsion d'avoir... de temps à autre, une tournée de vin.
Ben oui, pourquoi pas. Puis vous pouvez faire, en fait, si vous pouvez pas faire comme Fiona et nous amener une bouteille de vin en main propre et vous voulez pas envoyer ça là, par la poste au risque de vous faire saisir votre colis par les méchants douaniers canadiens, mais dans ce cas-ci, vous pouvez le faire, nous faire un don au distorsionpodcast.com sur l'onglet tournée de bière. En fait, vous vous rendez là et vous pouvez faire un don. Donc, en même temps, vous encouragez le show et vous remplissez notre frigo.
Oh oui.
On a aussi un shout-out à donner là, pour une review 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient cette fois-ci de Jesse Spencer du Canada qui nous parle et nous dit en fait « Le bouche-à-oreille virtuel, c'est grâce à Predge et son podcast Ars Moriendi que je vous ai découvert et j'aurais dû le faire avant. J'avoue aussi avoir un faible pour votre effet d'écho. » Donc juste pour toi, Jesse, un shitload d'écho. Je pense qu'on a tout dit, Seb. Est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le monde obscur de Mr. Handcuffs?
Oui, monsieur.
C'est parti.
Nous sommes le 20 juin 2013 à Northfield, qui est une petite municipalité d'environ 20 000 personnes au Minnesota, aux États-Unis. Laura Simonson, une aide-soignante de 37 ans, qui est divorcée depuis 6 ans de Troy Simonson, a maintenant la garde partagée de ses 7 enfants, Sarah, Hunter, Alyssa, Emily, Joséphine, Ashton et Kylie. Malgré les épreuves de la vie, Laura est une femme lumineuse très proche de ses enfants et qui dégage la joie de vivre. Laura est aussi bien entourée de sa famille et est très proche de sa seule sœur, Nikki, et de sa mère, Mary. Par contre, le quotidien de Laura n'est pas toujours facile. En plus de devoir s'occuper de ses 7 enfants seuls lorsqu'elle a la garde, parmi eux, il y a Alyssa, 13 ans, qui est depuis maintenant plusieurs années handicapée lourdement. Alyssa a subi un malheureux accident à la piscine lorsqu'elle était enfant, en fait, elle a failli se noyer, et depuis, elle est devenue aveugle et a subi de graves dommages au cerveau, ce qui l'empêche même de marcher ou de s'exprimer correctement.
Ah oui, c'est vraiment triste, ça, ce qui est arrivé à cette petite fille-là.
Vraiment, hein? elle est passée proche de mourir, en fait. Elle a eu une noyade là, en jouant avec des amis et elle a manqué d'air, comme on peut imaginer, puis ça a eu vraiment des graves impacts au cerveau.
Ça peut la rendre aveugle, ça, manquer d'air?
Oui, c'est particulier. Moi, j'avoue que c'est... je suis pas un spécialiste, mais c'est une des premières fois que je vois cet impact-là, justement, dans une conséquence comme ça. Elle demande des soins constants, n'étant aucunement autonome, bien sûr. C'est une épreuve qui doit être vraiment difficile hein, comme parent, hein, justement. C'est quand ton enfant a un accident comme ça, ça doit être très, très difficile. Il faut beaucoup de courage pour affronter ce genre de situation-là et Laura va ainsi passer beaucoup de temps avec Alyssa pour s'occuper d'elle, bien sûr.
Oui, puis ça doit être crève-cœur lorsque t'as 7 enfants, tu sais, c'est beaucoup. En fait, que tu veux tenter de donner de l'attention et donner des soins à tout le monde.
Ben oui.
Mais justement, quand t'as une de tes filles comme ça qui est lourdement handicapée puis qui demande plus de soins, ça doit être difficile de gérer les priorités là.
Ah oui, vraiment, vraiment. Heureusement, si on peut dire ça, Laura, c'est une aide-soignante, donc ça fait un peu partie d'elle, disons d'aider ou d'accompagner les gens malades. Nous sommes toujours le 20 juin 2013. Ce soir-là, Laura n'a pas ses enfants avec elle et elle vaque à ses occupations. Soudainement, elle reçoit un texto de sa sœur Nikki qui lui demande de la rappeler immédiatement, ce qu'elle fait. Nikki lui annonce une très mauvaise nouvelle. Alyssa était chez une amie pour un sleepover et elle est décédée abruptement dans son sommeil.
Oh.
C'est assez triste, là. Elle avait une infection au cœur, mais il n'y avait eu aucun symptôme particulier qui était apparu, donc personne s'en était vraiment rendu compte de ça. Et ça a été assez difficile, là, imaginez même pour l'amie d'Alyssa qui a trouvé, parce que c'est elle qui l'a trouvé dans le lit, elle couchait chez elle, puis elle essaie de la réveiller, parce qu'elle n'est pas réveillée, ça doit être quand même assez traumatisant. Hein.
Ben oui.
Choc total pour Laura, on peut la comprendre, sa vie vient de basculer encore une fois. Déjà qu'elle doit composer avec la maladie mentale, ayant fréquemment des dépressions, un événement de la sorte est très difficile à surmonter pour elle. Son entourage ne la reconnaît plus et elle s'isole de plus en plus d'eux à cause de cet événement-là.
C'est souvent ce qui est le pire dans tout ça. C'est un peu la pire chose à faire, de s'isoler, même si parfois dans les épreuves difficiles, on a tendance à le faire. Souvent, c'est justement en discutant avec des gens puis en partageant notre douleur qu'on arrive à l'atténuer.
Non, exact. On dirait que ça partage le poids sur les épaules d'un autre, mais ça demande des fois un petit coup de pied au cul supplémentaire.
Ben oui.
Parce que quand t'es déprimé, là, déjà que l'énergie est assez basse, si une situation comme ça vous arrive, faites pas comme elle, puis essayez de ne pas vous isoler. À la mémoire de Alyssa, Laura s'est fait tatouer sur sa cheville gauche Alyssa, ainsi que sa date de naissance, soit le 28 avril 2000. Les semaines et les mois passent, et Laura reprend du mieux. Nous sommes maintenant en octobre 2013. Pour contrer l'isolement, se trouver un nouvel amoureux et s'échapper un peu de son quotidien qui est assez demandant, je vous rappelle qu'elle a 6 autres enfants à s'occuper, elle s'inscrit sur des sites de rencontres en ligne et commence à chatter avec plusieurs hommes. Au départ, elle développe surtout des relations amicales. Laura est fan des Packers, donc elle discute de football et de sport avec les gens qu'elle rencontre. Il faut dire que depuis la mort d'Alyssa, Laura passe beaucoup de temps seule et elle se sent de plus en plus perdue, éprouvant une douleur qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. Ça inquiète un peu sa sœur Nikki, qui se demande si on peut faire confiance aux gens sur Internet. Malgré tout, Laura la rassure qu'elle sera prudente et de ne pas s'inquiéter.
Par contre, Laura, qui est de nouveau en dépression, a confié la garde complète de ses 6 autres enfants à Troy, son ex-mari. Et le 2 novembre 2013, Laura sent un grand vide dans sa vie et décide de prendre ses distances. Elle écrit une lettre à son entourage avant de partir, en commençant par s'excuser et en se décrivant comme une bonne à rien pour les autres et ses enfants, et le mieux qu'elle peut faire est de s'éloigner de son entourage pour leur bien.
C'est triste.
Elle mentionne vouloir trouver une place où elle ne pourra plus nuire à personne. Elle conclut la lettre en leur disant qu'elle les aime tous et les aimera pour toujours. Mais là, ses proches sont inquiets, mais se rassurent en se disant qu'elle est sûrement allée chez une amie de quelque temps pour prendre un peu de recul et d'espace, et elle reviendra en meilleure forme. Malgré tout, la lettre semble presque être une lettre de suicide. Donc, quand on lit ça... Moi, je m'attendrais au pire. En tout cas, je trouve que la réaction est particulière de la part de ses amis. Je veux pas juger en même temps la réaction, mais avec une lettre comme ça, j'aurais tendance tout de suite peut-être à prévenir les autorités.
Oui, exact, parce que c'est vrai que ça envoie un signal de suicide. Son entourage sait qu'actuellement, elle est médicamentée, elle va pas bien, elle est en dépression, donc les chances qu'elle se suicide sont toujours beaucoup plus élevées dans ce type de situation-là, où souvent on prend pas des bonnes décisions non plus. Mais c'est vrai que, en même temps, Laura, c'est une adulte. On revient toujours à ça, hein, quand des adultes disparaissent, on dirait qu'on laisse un peu une responsabilité à l'adulte même qui disparaît sans vouloir trop s'inquiéter, on dirait, à cause de ça, versus un enfant qui disparaît. Mais je suis d'accord avec toi que la réaction de son entourage semblait un peu passive.
Oui, donc elle a écrit cette lettre-là et par la suite, ils l'ont pas revue. Faut dire que justement, ses autres enfants sont en garde complète chez son ex-mari.
Oui, exact.
Donc, ils se sont pas rendus compte, eux, sur le coup, que justement, leur mère manquait à l'appel. Mais pour l'instant, il y a pas tant que ça à lieu de s'inquiéter. Ils pensent que justement, bon, elle est peut-être déprimée, elle a... peut-être écrit cette lettre-là sans véritable mauvaise intention, puis Laura avait quand même une vie sociale, même avant de s'isoler, elle avait une bonne vie sociale, donc elle a plusieurs amis, donc c'est quand même possible qu'elle soit allée se confier là, à quelque part. Mais là, on se retrouve 3 semaines plus tard, soit le 22 novembre 2013, au soir, alors que la famille est toujours sans nouvelles de Laura, un étranger là, colle un mémo à la porte de la maison de la mère de Laura et s'adresse directement à celle-ci, là, donc à Mary, la mère de Laura. Et là, je vous lis le mémo. « Mon nom est Jeff Madison. Comme vous le savez, Laura est mon amie depuis plusieurs années. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis plus de 2 semaines. » Je sais qu'elle n'avait plus de médicaments lorsqu'elle était chez moi, car ses agissements le démontraient. Déjà, c'est étrange un peu. Moi-même et ses amis sommes très inquiets pour elle en ce moment. Si vous avez eu de ses nouvelles depuis les 2 dernières semaines, s'il vous plaît, laissez-nous le savoir et nous cesserons ainsi de nous inquiéter. Et c'est signé Jeff. Donc ici, on a quand même un signal d'alarme là, qui est montré par ce mystérieux Jeff.
Oui, c'est quand même étrange la manière de communiquer de Jeff, je trouve, d'aller porter un mémo. Je suis convaincu qu'il aurait pu téléphoner ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y avait une gêne ou une timidité, mais je trouve que la manière qu'il a transmis le message est quand même bizarre.
Chose certaine, son objectif a été atteint parce que ça s'est rendu à bon port,
oui,
ce mémo-là. Sa mère, la mère de Laura, qui ne semble pas connaître Jeff, parce que c'est vrai, à quelque part, il prend pour acquis dans son message qu'on le connaît. La mère de Laura, pardon, demande à Nikki, la sœur de Laura, si elle le connaît. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'ils se sont connus en ligne il y a plusieurs années. Donc là, cette lettre, ce mémo-là, accentue encore plus l'inquiétude de la famille.
Ouais.
Nikki appelle Sarah, l'aînée des enfants de Laura, pour savoir si elle a eu des nouvelles, et la réponse est négative.
Ouais.
Elle appelle aussi l'ex-mari, Troy, et encore une fois, c'est négatif de son côté. Donc là, c'est sérieux. C'est alors que la famille décide de la déclarer portée disparue à la police. Et malgré tout, sa sœur demeurait très positive et était convaincue qu'elle allait revenir.
Oui, parce que ça faisait quand même 3 semaines là, qu'elle était partie. Là, j'avoue que de mon côté, l'inquiétude augmenterait. Puis c'est de ce que je comprenais, c'était la première fois quand même qu'elle donnait pas de nouvelles aussi longtemps, là, autant à Troy, son ex-mari, qu'à ses propres enfants.
Oui, puis là, les enfants, je comprends que quand t'es à garde complète chez ton père, t'as peut-être pas des nouvelles de ta mère à chaque jour.
Non,
mais
non.
Là, après 3 semaines, il y a vraiment un lieu de s'inquiéter, là, même pour un adulte.
Ah oui, exact.
Le lundi matin, le 25 novembre, le sergent détective Lee Olatz se rend à la maison familiale des Simonson. Cela fait 23 jours maintenant que personne n'a de nouvelles de Laura. La famille lui présente la lettre qu'elle a écrite et le mémo de son ami Jeff. Plusieurs drapeaux rouges sont détectés par le sergent détective dû au fait qu'elle n'a pas ses médicaments en sa possession et ce qui est quand même un comportement très inhabituel de sa part. Il questionne la famille à savoir si elle se serait suicidée, évidemment, parce que avec la lettre qu'elle a écrite, c'est une des premières hypothèses qui vient en tête. Mais selon eux, ce n'est qu'une option parmi tant d'autres. Selon ses proches, évidemment, elle aime trop ses enfants pour faire un tel geste.
Sur les lieux, le sergent détective Olatz fouille la camionnette familiale, qui sert aussi lors de sorties en camping. Il fouille la camionnette pour rechercher des indices pour déterminer où Laura pourrait bien se trouver. Ça, je trouve ça étrange que même la famille n'a jamais fouillé la camionnette avant ça non plus.
Mm-hmm.
Encore une fois, on revient au fait que la famille s'inquiétait, mais en même temps était un peu passive dans le... Mais je les accuse pas, là, comprenez-moi bien, mais je trouve que ça aussi, c'est un élément particulier. Dans sa fouille, il trouve le téléphone intelligent de Laura et une carte de crédit. C'est assez étrange de partir sans son cellulaire et sans argent, hein?
Oui, on l'a vu dans plusieurs cas. Souvent, c'est un drapeau rouge.
Les autorités monitorent immédiatement la carte de crédit et le téléphone pour observer s'il y a eu de l'activité dans les dernières semaines. Malheureusement, rien du tout. Les autorités questionnent l'entourage immédiat de Laura pour tenter d'obtenir le moindre indice. Dans ce genre de disparition, les premières personnes qui deviennent des personnes d'intérêt envers les autorités, généralement, c'est les hommes qui gravitent autour d'elles.
Évidemment.
La première personne qui est interrogée, c'est Troy, son ex-mari. Par contre, il avait un solide alibi et aucune preuve directe qui pourrait être impliquée dans la disparition de Laura. La seconde personne d'intérêt est bien sûr Jeff Madison, l'homme qui a laissé la lettre sur la porte de la maison de la mère de Laura.
Oui, parce que ça fait un peu stalker même.
Oui, c'est un peu particulier. Jeff est très collaboratif avec les autorités et invite même le sergent détective à se rendre chez lui, car il a de l'information qui pourrait l'intéresser pour tenter de trouver Laura. Il montre à Olatz qu'il a accès au courriel de Laura ainsi qu'à ses comptes de réseaux sociaux et de sites de rencontres.
Ah ouais, mais c'est particulier ça quand même.
C'est assez suspect, là, je te dirais. Pourquoi que lui a accès à ça? Est-ce que c'est elle qui lui a demandé... tu sais, des fois, peut-être des amis en qui on a confiance, on peut leur donner nos accès pour une raison X, mais là, il a accès à tout son écosystème numérique. C'est bizarre.
Oui.
Olatz, justement, le sergent détective, il trouve ça étrange. Par contre, les découvertes que Jeff font sont intéressantes. On va vite se rendre compte que Jeff, il va jouer un très grand rôle dans la recherche de Laura. Après tout, jusqu'à présent... Les relevés de comptes bancaires, de cartes de crédit et de téléphones cellulaires n'apportent aucune nouvelle piste. Donc, il faut se tourner vers des recherches plus approfondies, au pire, au risque de tomber dans le jardin secret de Laura.
Oui, c'est toujours ça la crainte.
Oui, exact. Hein? Puis on le sait, on en vient toujours à ça dans les enquêtes, à fouiller dans le contenu, puis ça, on dirait que ça me rend tout le temps un peu mal à l'aise. Jeff invite les enquêteurs chez lui pour leur montrer le résultat de ses recherches. Il explique aux policiers qu'il a, comme on vous disait, qu'il a accès à tout ça, et en fouillant dans les comptes de Laura, il découvre qu'elle a un compte sur un site assez particulier qui s'appelle colorme.com. Donc, color comme un collier, là, oui, C-O-L-L-A-R, M-I-M-E.com. Le site Colorme, en fait, est un site de rencontre spécialisé en BDSM. Le BDSM, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'acronyme de Bondage, Discipline, Sado et Masochisme. Les pratiques BDSM sont fondées sur un contrat entre deux parties. Il y a un pôle qui est dominant et un pôle qui est dominé. Jeff y a découvert aussi que Laura s'est inscrite en septembre, un peu de temps après que sa Alyssa soit morte, et elle a discuté avec plusieurs personnes sur ce site. La nature des échanges est plutôt de type sadomaso entre Laura et d'autres membres du site.
Apparemment que Laura serait plus, elle, de nature dominée.
Oui, exact.
Dans tout ça. Puis, je me demande si, c'est pas clair si Jeff, il l'a pas rencontré sur ce site-là, lui non plus. Parce qu'un truc que je me demandais un peu en pensant à tout ça, c'est que, ben, en faisant des recherches pour notre série télé à Distorsion, on s'est rendu compte qu'il y avait une branche du BDSM, là, qu'on appelle le FinDom, donc le Financial Domination. Et puis, à partir de là, souvent, les gens vont donner accès à leur dominant,
ben,
en fait.
Oui,
accès à beaucoup de données, hein, leurs réseaux sociaux, même leurs comptes bancaires, et le processus de domination va se traduire dans le contrôle des finances de la personne, dans le contrôle de même sa géolocalisation, de ses mots de passe, de son activité internet, tout ça. Donc c'est une autre forme de soumission qu'on retrouvait pas là avant l'ère numérique.
Non.
Donc je me demande, est-ce que c'est possible que Jeff ait cette relation avec Laura, puis que c'est pour ça qu'il ait tous ses accès.
Non, effectivement, c'est une théorie que j'avais pas pensé du tout. Ça fait du sens, mais on n'a pas vraiment de détails actuellement.
Non, pas du tout. C'est juste une théorie.
Oui. Avec ces informations en main, le sergent détective Olatz a l'impression qu'il vient peut-être de tomber sur une piste intéressante. Il poursuit donc des recherches avec le compte de Laura sur le site colorme.com. Il a découvert plus précisément qu'elle a discuté avec un certain Mr. Handcuffs. Handcuffs, ça veut dire des menottes en anglais, donc Monsieur Menotte. Quelques semaines avant de disparaître. Son tagline à Mr. Handcuffs sur le site, c'est « Looking for 24 and 7 slaves for permanent ownership ». Donc, je recherche une esclave 24 heures sur 24 pour une domination permanente. En creusant un peu plus les échanges entre les deux, on y découvre que Laura était la dominée ou l'esclave virtuelle et que Mr. Handcuff était le dominant ou le maître. Plus les discussions avançaient entre les deux, plus le désir de se rencontrer en personne émergeait et le discours était très orienté vers cette rencontre.
Oui, parce que eux semblaient vouloir vraiment le vivre dans la vraie vie, là, cette pratique-là.
Oui, c'est puis dans les discussions qu'on a vues, il y avait beaucoup de teasing, là. Elle lui disait qu'elle serait son esclave à vie, lui il lui disait qu'il serait son maître pour le reste des temps. Donc ils ont développé quand même une relation. Je sais pas si on peut dire une relation amoureuse, mais du moins il y avait un lien entre les deux et il y avait envie d'aller explorer leur fantasme.
Je sais pas si dans leur cas à eux, il y avait une certaine forme de contrat, parce que je sais que dans certaines situations de dominant, il y a cette notion-là de contrat.
Oui.
Pour être sûr que tout le monde est consentant.
Oui, exact, pour pas que quelqu'un revienne contre la personne par la suite, parce que veut pas les pratiques BDSM, un peu comme on le disait, des fois ça touche certaines limites qui peuvent être dangereuses, là. Donc je peux comprendre aussi que les gens peuvent se protéger avec des contrats de ce genre-là. Pendant ce temps-là, la famille continue les recherches pour la trouver et met des affiches partout dans la ville en visitant les refuges, aussi les églises, parce qu'ils se sont dit peut-être qu'elle est démunie dans le sens qu'elle a plus de sous, elle sait plus où aller. On se rappelle qu'elle a plus son téléphone, ni elle a pas sa carte de crédit, donc on sait pas quel moyen financier qu'elle a avec elle. Donc ils ont fait vraiment le tour de la ville pour tenter de la trouver, rien sans succès. Là, l'inquiétude augmente et les proches se font commencent à se faire les pires scénarios, là.
Oui, parce qu'en plus, elle n'a pas ses médicaments et ça semble faire un bout de temps qu'elle les a prises. Mmh. Et on sait que ça peut faire vraiment un effet particulier lorsqu'on est tourmenté ou qu'on est en dépression, qu'on vit des grandes émotions. Elle vient quand même de vivre la mort de sa fille qui lui amenait déjà beaucoup de challenges mmh. mentales. Et là, sans sa médication, ça peut être fatal, hein. On se rappelle de cas, que ce soit même Elisa Lam ou mmh. Emma Filipov, oui. où justement l'absence de médication a peut-être causé leur perte, oui, au final. Exactement. Nous sommes maintenant le 28 novembre 2013 et pour accélérer l'enquête, les autorités diffusent la fiche de disparition de Laura au grand public via les médias sociaux et même par fax là, pour maximiser oui. les chances de la retrouver. Parce que le fax est encore très utilisé dans ces situations-là pour les médias, entre autres.
Oui. Puis il l'envoie, de ce que j'ai vu, il l'envoie aussi un peu partout aux entreprises qui ont encore des fax. Donc ça devient un genre de mass mailing policier.
Cette initiative va porter fruit. Christy Bodunoff, une employée d'un hôtel situé à Rochester, dans le Minnesota, l'a reconnue et contacta les autorités tout de suite. Là. Donc, il y a déjà du feedback par rapport à la diffusion de tout ça.
Ça a été presque instantané, la réaction de cet employé-là.
Le sergent détective Olatz, très enthousiaste là, d'avoir enfin une piste intéressante, se rend alors sur les lieux pour interroger cette fameuse Christy et savoir à quel moment Laura s'était présentée à l'hôtel. Est-ce qu'elle était seule? Est-ce qu'elle était accompagnée? Dans quel état elle était? Tout ça, donc c'est toutes des questions qu'il a, là. Il apprend qu'elle est venue là, il y a 3 semaines, le 2 novembre, la date exacte de disparition supposément volontaire de Laura et de l'envoi de sa lettre à ses proches. Donc, il y a une coïncidence qui est assez inquiétante ici, là. Elle ne semblait pas bien dans sa peau, selon la commis de l'hôtel, et elle était accompagnée par un homme. Malheureusement, aucun nom au registre à propos de l'homme qui est présent à l'hôtel. Oui. Et par un drôle de hasard, la captation vidéo de la caméra qui filme le lobby le matin du 2 novembre a été perdue due à un problème technique.
Ben oui, tu parles d'un méchant hasard.
Et ça, c'est toujours un classique là, qui arrive. Là.
Oui, on dirait toujours que c'est une conspiration. Parce que ça arrive souvent au moment où on a besoin de cette preuve-là pour essayer de faire avancer l'enquête.
Ben oui, ben ma théorie là-dessus, c'est que il y a bien des hôtels et des commerces, sans doute, qui ont pas souvent besoin là, de consulter les vidéos de surveillance. Donc, il y a de la négligence. Il y a peut-être un update qu'il faut faire dans le système à un moment donné, qu'ils font pas. Et puis là, ben au moment où vraiment on a besoin, on se rend compte que il y a quelque chose qui marche pas finalement dans le système.
Non, exact. Parce que
j'ai pas l'impression que c'est une conspiration.
Non, exact. Mais t'as raison parce qu'ils doivent pas vérifier justement quand ça plante. Puis, tu sais, d'une certaine manière, ils peuvent s'en foutre un peu là, qu'un matin, ils ont plus les enregistrements.
Ils pensent alors à consulter la bande vidéo du lendemain matin. Et là, ils vont faire une découverte. On y voit l'homme qui accompagnait Laura sortir avec ses bagages, mais on ne voit jamais Laura dans les images qui ont été filmées. Étrange, ça.
Oui.
Où peut-elle bien être, là, et qui est l'homme qui l'accompagnait? Ça, c'est des questions que le sergent Olatz va se poser, là. Une capture d'écran de la caméra de surveillance est alors diffusée pour tenter de retrouver cet homme mystérieux.
Mais encore une fois, les captations de caméras de surveillance sont souvent de mauvaise qualité, hein?
Oui.
C'est très pixelisé et c'est toujours difficile à identifier quelqu'un. Mais je sais que quand c'est quelqu'un que tu connais, c'est un peu toujours ça l'argument des policiers, que même si la qualité, elle est basse de la photo, quand tu connais la personne, t'es en mesure de la reconnaître. Généralement, tu vois des traits. Puis c'est vrai là, qu'on est capable de ça. Là. Donc, faut pas penser qu'une photo pixelisée ne sert à rien.
Parfois, c'est la démarche. Hein. On va reconnaître la démarche de quelqu'un qui se promène. Quelqu'un va boiter un peu d'un pied ou va se traîner les pieds ou va avoir le dos courbé. Donc, c'est toutes des façons qu'on peut reconnaître quelqu'un. Donc, c'est pertinent tout de même.
Non, exact. Puis même la démarche, maintenant, c'est rendu une méthode d'authentification de quelqu'un, un peu comme la reconnaissance faciale. Parce que selon des dernières recherches qu'ils ont fait, chaque humain a une démarche unique. Donc, petite parenthèse.
Les semaines passent et c'est le premier temps des fêtes là, sans Laura pour sa famille. Tout le monde garde espoir qu'elle soit toujours en vie, mais les espoirs diminuent peu à peu car cela fait plus de 2 mois qu'ils sont sans nouvelles.
C'est
puis
long,
on le sait, le temps des fêtes, c'est toujours un moment très, très triste pour les victimes et les proches des victimes de personnes disparues. Le 12 janvier 2014, le sergent détective Olatz retourne voir l'ami de Laura, Jeff, qui n'est plus, lui, là, sur la liste des suspects, car il ne ressemble pas à l'homme de l'hôtel là, qu'on a vu sur la vidéo de surveillance. Donc, il retourne le voir pour lui montrer là, ses dernières découvertes de photos, entre autres, qui étaient de l'homme qui était à l'hôtel. Jeff, de son côté, a infiltré le réseau de BDSM, le callerme.com, afin d'en connaître plus sur la communauté. Donc, il a fait un peu son travail de détective privé. Ouais. Et là, il va essayer de voir s'il n'y a pas des indices sur le site qui permettraient de faire avancer les choses. Il va s'intéresser plus particulièrement au profil de ce fameux Mr. Handcuffs, là, avec qui Laura discutait depuis un certain temps. Il a continué à fouiller, il l'a trouvé à travers le code HTML de la messagerie du site le Caller Me, le courriel de Mr. Handcuffs. Et là, on a enfin une adresse courriel liée à ce compte-là. Il s'agit d'un certain Steve 53277 à yahoo.com. Et en le googlant, il remarque que ce courriel est souvent associé à un certain Steven Zelick, originaire de Milwaukee. Particulier, ça.
Oui.
Ils ont enfin un nom, ou du moins un courriel derrière le pseudonyme. Olatz commence enfin là, à avoir un peu le bout du tunnel, de voir qu'il y a quelque chose qui risque de l'amener à quelque part. Donc, il commence par chercher dans la base de données des autorités qui s'appelle ClearPoint, en guise de point de départ, sans toutefois avoir beaucoup d'attentes, parce que c'est juste une base de données, c'est une base de données des autorités. Oui. Donc, c'est que les gens qui ont été membres des services de police, des forces de l'ordre. Donc, les chances sont minces quand même l'adresse ressorte, là. Il recherche le nom et réduit le spectre de ses recherches pour l'État du Wisconsin. Par chance, ou par malchance, Steven Zelick, 52 ans, se retrouve dans la base de données.
Oh.
Étrangement, c'est un ancien policier qui a été suspendu le 23 octobre 2012 et dans sa fiche, il y a une adresse courriel qui est exactement la même que Mr. Handcuffs, soit le Steve 53277 à yahoo.com.
C'est assez particulier hein, parce que Monsieur Olatz, il disait que généralement dans les fiches de policiers dans le système, il y a rarement un courriel.
Oui.
Et là, c'est un drôle d'hasard qui permet encore plus de faire le lien entre les deux. Donc, c'est un beau hasard.
Jeff se rend aussi compte que Laura avait aussi échangé les courriels avec cette adresse. Mais qui est donc Steven Zelick?
Se dirige tout de suite sur ce certain Steven Zelick. Les enquêteurs apprennent qu'il a travaillé pour le département de police de West Allis, qui est situé dans le Wisconsin. Il a travaillé là de février 1989 et il a démissionné en août 2001. On ne sait pas trop pour quelle raison. Cette découverte allait grandement compliquer les choses. Puisqu'étant un ancien policier, il connaît les techniques des enquêteurs.
Ben oui.
Il sait potentiellement comment camoufler des preuves et il connaît ses droits. Il n'allait donc pas être facile à faire parler ni même à interroger. Et comme nous ignorons encore si Laura est vraiment disparue, si elle a été enlevée ou encore si elle a été assassinée, il faut agir avec la plus grande précaution.
Oui, parce qu'étant donné qu'il connaît les méthodes des enquêteurs, faut savoir bien l'entourlouper là, ou bien le piéger, sinon il va se douter à un kilomètre qu'il y a quelque chose qui cloche avec lui.
Exactement. Olatz commence à faire des appels pour se renseigner à propos de ce nouveau suspect. Il appelle ses collègues de West Allis, le poste de police où il travaillait, pour leur poser quelques questions. Lorsqu'il leur dit que Zelick est suspect dans une affaire de disparition, Ses collègues policiers de l'autre poste ne semblent pas très surpris de ça.
Oh non.
Ils indiquent à Olatz qu'il avait été suspendu suite à des plaintes pour harcèlement. On y reviendra plus tard. Apparemment, qu'il se montrait insistant auprès des femmes pour qu'elles sortent avec lui. Olatz va même leur envoyer les images de l'hôtel pour voir si les collègues peuvent confirmer en fait ces biens zéliques qu'on voit sur les bandes vidéo. Et celui-ci, et en fait c'est bien zélique qui est là. Olatz est à la fois heureux et terrifié. Ils ont enfin un nom officiel pour Mr. Handcuffs. Nous sommes maintenant le 17 janvier 2014 et Olatz va envoyer sans plus tarder des agents policiers chez Zelik pour tenter d'en savoir plus. Lorsqu'ils arrivent chez lui, ils le trouvent bien vêtu, articulé et bienveillant. Il porte même toujours une veste des services policiers. Ça, c'est un peu bizarre. Hein? Il indique qu'il est très motivé à coopérer avec ceux-ci. Lorsqu'interrogé, Zelik indique aux policiers qu'il connaît en effet Laura Simonson. Il leur explique que les deux se sont rencontrés en ligne et qu'ils ont beaucoup discuté au cours des mois précédents. Il indique même que Laura lui aurait envoyé des photos osées et même compromettantes. Cependant, il n'y a pas eu de nouvelles d'elle lui non plus depuis plus de 2 mois. Les policiers vont fouiller son appartement et ne trouver aucune trace ni de Laura ni d'aucune autre femme et rien qui puisse concrètement vraiment faire avancer l'enquête. Ils reviennent donc bredouille au poste de police.
Oui, ça c'est très décevant parce que tu débarques chez quelqu'un que t'es presque sûr qu'il est lié à cette histoire-là, mais tu peux rien trouver. En plus, lui de son côté, il semble très coopératif. Apparemment, qu'il répétait souvent aux policiers que ça me fait plaisir d'aider d'anciens collègues, ça me fait toujours plaisir d'aider les autorités, tout ça. Mais en même temps, ils savent qu'il y a quelque chose à cacher.
Oui, exact.
Malgré tout, Olatz est convaincu que Zelik est mêlé à tout ça. Il craint le pire, qu'elle se soit fait assassiner ou encore vendue à un autre maître d'esclaves. Parce que ça aussi, c'est des choses qui existent.
Oui, trafic humain.
Dans le monde plus extrême du BDSM. Mmh. Il ne va donc pas lâcher le morceau et continuer à fouiller la vie de Zelik. Les risques sont élevés, car on le sait, lorsque l'on s'acharne sur un suspect, il peut arriver que l'on manque un détail important à propos d'un autre suspect. Comme là, c'est vraiment comme si le sergent Olatz mettait tous ses œufs dans le même panier. Là. Focus vraiment sur Zelik, puis on est quand même dans une petite municipalité, puis on le sait, les services de police ont des budgets limités aussi, ils peuvent pas étirer ça trop longtemps. Là. Les mois passent, il y a toujours aucune nouvelle piste là et aucune nouvelle tout court à propos de la disparition de Laura. Le supérieur de Olatz lui annonce que s'il n'y a pas de développement majeur très bientôt, il devra fermer le dossier pour prioriser d'autres affaires. Après tout, Laura est une adulte, elle a laissé une lettre derrière elle qui peut laisser penser qu'elle se serait suicidée, donc il devient injustifié de continuer à mettre énormément de budget sur cette histoire-là. Toutefois, Olatz ne démarre pas et il va demander l'aide du FBI pour tenter de faire avancer l'affaire. Parce que même si elle a tenté de se suicider ou qu'elle a commis le suicide, on n'a toujours pas de corps. Hein, donc, c'est toujours ouvert à plein de scénarios.
Exact.
On peut pas non plus, fermer l'hypothèse du suicide. Mais en même temps, cette histoire avec Mr. Handcuffs garde le policier quand même assez intrigué à l'idée d'en savoir plus.
Oui, parce que... Il y a quelque chose de louche, là, malgré tout.
Le 10 mars, les agents du FBI retournent une fois de plus chez Zelik pour l'interroger. Car si Zelik a transporté Laura là, du Minnesota au Wisconsin, advenant un scénario tragique, cela tombe dans leur juridiction là, du FBI. Celui-ci, Zelik, est encore très collaborateur avec les agents. Ils reviennent sur le site web de BDSM et sur la rencontre avec Laura. Celui-ci leur indique encore une fois que ce type de site n'est pas illégal du tout et qu'ils sont des adultes consentants et responsables.
Ouais.
Donc, ils peuvent bien s'échanger ce qu'ils veulent comme image, puis ils peuvent bien faire n'importe quelle pratique. Les agents fouillent son appartement encore une fois sans rien trouver. Puis les agents du FBI sont un peu plus sérieux.
Oui, ils sont plus raides.
C'est plus officiel.
Oui, c'est ça.
Par contre, ils vont demander à Zelik s'il accepte de faire un prélèvement d'ADN, ce qu'il accepte, indiquant qu'il souhaite toujours aider ses collègues policiers, qu'il connaît bien la procédure là en lien avec les prélèvements d'ADN. Les agents vont indiquer après coup que Zelik était très nerveux pendant le prélèvement buccal et que celui-ci suait à grosses gouttes en plus. Donc les choses là, demeurent toujours très louches à ce propos. Zelig tombe soudainement sur la défensive. Il est de moins en moins aidant et insiste sur le fait que Laura fréquentait d'autres sites de rencontres et qu'il n'est certainement pas le seul homme avec lequel elle discutait. Mm. Malgré tout, le temps passe et la famille de Laura est toujours sans réponse.
Ça doit être l'enfer. Hein?
Ah oui.
De vivre ça, là, parce que là, ça fait pratiquement 6 mois, là, même 7 mois, là, presque. Tu sais, de vivre sans réponse, là, ça doit être horrible. Ça doit te hanter continuellement. Puis je pense aux enfants aussi qui doivent s'ennuyer de leur mère. Là. Elle était présente. Là.
Oui.
Même si à la fin, elle avait plus la garde temporairement. Veux pas, elle était proche de ses enfants. Moi, je pense beaucoup à eux aussi dans cette situation-là. Ça devait être vraiment difficile.
Le 5 juin 2014 maintenant, dans le comté de Walworth, à 50 milles au sud-ouest de Milwaukee, dans la ville de Genève, 2 cols bleus font leur travail sur le bord de la route. Ils nettoient les abords et ils coupent les branches mortes. Un des 2 travailleurs remarque 2 valises cachées là, sous un tas de branches d'arbres cassées. Dès qu'ils s'approchent, une odeur très désagréable s'en dégage. Une nuée de mouches aussi là, est très présente autour des 2 valises. Une fois une des valises ouvertes, on y trouve des sacs à poubelle noirs. Des techniciens en scène de crime là, sont tout de suite appelés et arrivent sur les lieux et déterminent que chacune des valises contient un corps de femme différent. Les 2 corps sont dans des états de décomposition avancés. Ils sont les 2 dévêtis, leurs mains nouées par des cordes. Dans l'un d'eux, une main avec du vernis rose ressort du sac de poubelle. Sur l'autre corps, on peut y distinguer un tatouage déchiffrable malgré la décomposition. On peut y lire « Alyssa ».
Olatz doit maintenant en parler à la famille de Laura. Il parle entre autres à Nikki, la sœur de Laura, pour confirmer la piste du tatouage. Et oui, en effet, il confirme que Laura avait bel et bien le tatouage d'Alyssa sur son pied, donc il s'agit bien d'elle. La famille est atterrée parce que là, ça confirme qu'elle est morte.
Oui, puis en plus, retrouver dans une valise comme ça, c'est sûrement pas un suicide.
Non, exact. Là. Puis en un état de décomposition, je pense aux gars sur le bord de la route qui ont trouvé la valise et même ensuite aux autorités qui ont fallu manipuler ça. Là, de gérer l'odeur, là, ça doit être vraiment difficile. Là. Ça pue, ça doit vraiment... En fait, je sais pas ce que ça sent, un corps qui se décompose, mais j'ose croire que ça doit être difficile. Pendant ce temps-là, les enquêteurs ne perdent plus de temps. Ils ont enfin une scène de crime et des cadavres à analyser. Malgré le fait que la nouvelle est des plus tristes, ils peuvent commencer à faire leur travail plus sérieusement et à enfin tenter d'élucider le mystère. En analysant plus méticuleusement les cordes qui étaient nouées autour des poignets des victimes, les analystes défont les nœuds et arrivent à prélever un échantillon d'ADN.
Non, les cordes ne mentent pas.
Non. Cet ADN ne correspond ni à celle de Laura, ni à celle de la femme toujours inconnue qui se trouve dans l'autre valise. Il est donc fort probable que cet ADN soit celle de l'agresseur.
Mm-hmm.
Les résultats du test arrivent enfin. Le temps paraît une éternité dans une situation comme ça. Et boum, l'ADN de Steve Zelig correspond à celle retrouvée sur la corde. Il est alors formellement arrêté le 25 juin 2014. Au départ, Zelig joue un peu à l'innocent là, et tout à coup, il se met à table lors de l'interrogatoire. Zelig explique tout d'abord qu'il a fait connaissance avec une certaine Jenny Gamez sur un site de rencontre BDSM. Jenny, mais qui est donc cette Jenny Gamez?
Jenny Gamez est une fille âgée d'à peine 19 ans au moment des faits. Elle est originaire de Cottage Grove dans l'état de l'Oregon et elle a été portée disparue en 2012.
Ça fait longtemps, là.
Oui. Ses amis disent d'elle qu'elle souhaitait voyager pour apprendre à se connaître et à découvrir là, ses véritables intérêts. Un jour de 2012, elle a quitté la maison en ne donnant pas trop de détails à ses proches, là, qui eux non plus n'en ont pas fait de cas, pensant qu'elle partait en voyage et qu'elle allait les tenir au courant.
Oui.
En fait, pendant ce temps, elle parlait avec un certain Mr. Handcuffs sur Internet. Mm. Après quelques semaines de discussion, il l'invita chez lui dans sa ville. Elle accepta et il est venu la chercher à l'aéroport de Milwaukee et ils se sont rendus en voiture dans un hôtel de Kenosha dans le Wisconsin où ils ont passé plusieurs jours ensemble.
Oh.
Une fois arrivés, ils ont commencé à faire certaines pratiques de BDSM, dont celle qui consiste à utiliser la strangulation contrôlée afin de provoquer un manque d'oxygène.
Peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne, cette méthode-là?
Ben, c'est une technique apparemment là, qui se nomme asphyxie érotique, puis elle consiste là, à étrangler le cou, là, souvent avec une corde, et ainsi là, les artères ont peine à acheminer l'oxygène au cerveau. Okay. Puis après quelques temps, on observe des sensations de légèreté, même d'euphorie, après quoi là, les plaisirs sexuels apparemment sont amplifiés. Okay. Apparemment que selon les adeptes, là, le rush là, qui parcourt notre corps pendant tout ce temps-là est encore plus puissant qu'une dose de cocaïne.
Oh, ça doit être...
Donc, je vous parle pas en connaissance de cause, mais c'est une pratique qui est quand même assez courante. On a même vu des gens mourir de ça parce que tu peux te l'affliger à toi-même.
Oui, cette
pratique-là. Je crois que c'est ce qui a tué David Carradine, le comédien dans Kill Bill.
Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est comme ça que ça s'est produit.
Oui, ça peut être très, très dangereux comme pratique parce que on pousse la personne vraiment aux abords de la mort.
Oui, à la limite, justement. Puis c'est cette limite-là qui crée un buzz au cerveau. J'ai l'impression qu'il doit avoir comme le cerveau doit paniquer ou faire une décharge, justement, d'adrénaline et de dopamine pour peut-être tenter de se réanimer. Puis c'est ça qui doit allumer la personne là, qui vit ce moment-là.
Zelick explique en interrogatoire qu'il est allé trop loin dans sa technique et qu'elle a cessé de respirer. Ouais, on peut dire ça aussi. Ouais. Elle est morte après coup. Zelick a alors placé le corps dans une valise, on parle toujours de Jenny Gomez ici, là, qu'il a sorti de l'hôtel sur un chariot à bagages et il l'a déposé dans la valise de son coffre de voiture. La raison pour laquelle il n'a pas appelé la police ou les secouristes, ni procédé à la réanimation cardio-respiratoire, on le rappelle, c'est un ex-policier, c'est qu'il a paniqué sur le coup. Zelick a ensuite conservé le corps dans son réfrigérateur pendant plus d'un an.
Incroyable.
Et en février 2014, il déplaça le corps dans le coffre de sa voiture, étant donné que c'était l'hiver et qu'il faisait froid. Donc, à ce moment-là, les autorités étaient déjà venues le voir.
Oui.
Et même que lorsqu'ils étaient venus la première fois, le corps de Jenny était dans le congélateur, puis ils l'ont pas trouvé.
Non, exact. Puis c'est pour ça qu'en février 2014, il l'a déplacé dans son coffre de voiture, parce que les policiers étaient venus le voir, puis je crois qu'il a eu peur que s'ils reviennent, puis ils fouillent plus en profondeur l'appartement. Donc, il a comme un peu dissimulé la preuve. Parce que j'avoue que dans ce type d'enquête-là, la voiture est peut-être pas le premier endroit qu'ils vont fouiller.
Non, mais encore, ils couraient un grand risque parce que en deux clics, ils auraient pu décider de fouiller la voiture.
Ben oui, absolument.
C'est vraiment un peu idiot de sa part.
Ah oui, puis il se promenait là, avec sa voiture, donc il y avait toujours un cadavre dans le coffre. Quand je pense à ça, je trouve ça horrible.
Ah oui, c'est tordu. Lorsque questionné à propos de Laura Simonson, Zelick explique qu'ils se sont donné rendez-vous en novembre 2013 dans un hôtel de Rochester. Même scénario ici, là. Ils se sont adonnés à des pratiques de soumission dans la chambre pour finalement en arriver à la strangulation. Encore une fois, il est allé trop loin et Laura n'a pas survécu à la séance. Lorsque l'on regarde la vidéo de surveillance de l'hôtel, on le voit transporter un chariot à bagages jusqu'à sa voiture, comme dans le cas de Jenny Gomez. Ouais. Sur ce chariot-là se trouve la valise dans laquelle Laura se trouvait après le meurtre. Là. Donc vraiment troublant de visionner cette vidéo-là en sachant les choses là, après coup. Là.
Ah oui, moi j'ai pas aimé ça là, de voir ça.
En plus de ça, la corde était enroulée là, environ 6 ou 7 fois autour du cou de Laura, ce qui montre qu'il ne prenait pas là, la séance à la légère. Ah, c'était quelque chose de sérieux, cette strangulation-là. Donc, plusieurs minutes ont dû s'écouler avant que les deux femmes meurent. Il aurait donc, en théorie, là, eu pleinement le temps d'arrêter la technique juste à temps avant qu'elles meurent. Donc, c'est vraiment à se questionner, à savoir est-ce que c'était... intentionnel, cette histoire-là, parce que là, ça fait deux fois que ça arrive, puis c'est inquiétant, là, vraiment, il aurait pu les aider, puis il l'a jamais fait. Là.
Oui, puis c'est un choix, là.
Oui. Laura a laissé dans le deuil sa sœur Nikki, mais aussi ses 6 enfants. Kylie, 21 ans, l'aînée des 6 enfants, le survivant de Simonson, a déclaré qu'elle se sentait coupable depuis que sa mère avait été retrouvée dans une valise et sa peur est qu'elle doive expliquer à ses plus jeunes frères et sœurs ce qui est vraiment arrivé à leur mère.
Alors, je la comprends tellement. Hein, tu sais que ta mère meurt dans des circonstances, toutes sortes de circonstances, ça s'explique, mais dans des circonstances comme ça, Ça va être sans mots, puis un enfant ne peut pas comprendre, donc ça va prendre du temps avant qu'il lui explique. Imaginez le choc, là. Toi, ta mère est morte, peut-être tu avais 5 ans, puis tu apprends à 13 ans, par exemple, la manière dont elle est morte. Ah, oui. Là, ça doit être vraiment difficile.
Sarah Simonson, en fait 18 ans, était particulièrement proche de sa mère. Les autres enfants survivants de Laura là, sont Hunter, 15 ans, Emily, 14 ans, Josephine, 11 ans et Ashton, 9 ans. Les deux plus jeunes ont dessiné des photos de leur famille là, pour le juge. Ils n'étaient pas dans la salle d'audience pendant les aveux de Zelick, heureusement pour eux et leur santé mentale. On vous rappelle que Laura et Troy Simonson avaient divorcé environ 6 ans avant son assassinat et que les enfants vivaient avec lui alors que Laura était aux prises avec des problèmes de santé le peu de temps après la mort de leur fille Alyssa.
Lors du procès de Steven Zelick, la preuve contenait 648 pages de documents. Parce que là, on vous a résumé ça, là, mais c'est fou la preuve accumulée parce qu'il faut vraiment démontrer que c'était bien lui aussi, là, outre son... lui-même qui s'inculpe de ça, faut le démontrer. Moi, je suis toujours impressionné par la quantité de preuves qui sont amassées dans ce cas-ci.
Et on parle de tonnes de courriels, de messages échangés sur le site Caller Me, tout ça. Puis, c'est des messages qui peuvent être assez troublants parfois.
Ah ben oui, pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ces pratiques-là, ça va quand même loin, là. Le 25 janvier 2016, Steven Mark Zelick, qui est maintenant âgé de 55 ans, plaide coupable pour homicide involontaire au premier degré de Laura Simonson et de dissimulation d'un cadavre. Il est condamné à 25 ans de prison. Par contre, Zelick doit faire face à un autre procès pour le meurtre de Jenny. Le 30 mars 2016, il est condamné à une peine de 35 ans d'emprisonnement pour le meurtre de Jenny Gomez et aussi pour la même chose, de dissimulation d'un cadavre. Mais il y a eu 10 ans de plus pour Jenny. Une des raisons, c'est que le meurtre, ben, dans le fond, il a eu lieu plus tôt, il a caché le cadavre plus tôt, donc ils ont voulu le punir un peu plus. Par contre, ces peines-là doivent être purgées de manière concurrente. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils s'accumulent pas, là, c'est pas 25 plus 35, c'est vraiment 25 en même temps que le 35 ans de prison. Donc, au total, il va passer 35 ans en prison, et à sa sortie, il va avoir 88 ans. Donc, et ça a beaucoup choqué la famille comme peine, tu sais, qu'il n'y a pas une peine de mort ou des choses comme ça.
Ben oui, ben même moi, ça me choque un peu, ben parce qu'on parle quand même de deux homicides ici, puis je comprends l'idée de lui donner plus pour Jenny, vu que c'était la première, mais à quelque part, il a récidivé avec Laura.
Non, c'est
donc
clair.
Pourquoi il y a moins pour Laura, ça m'échappe complètement.
Ouais, moi aussi, puis eux, ils expliquaient que la priorité, les procureurs, en fait, dans le dossier, ils expliquaient que la priorité du procès, ça a toujours été de faire en sorte que Steven Zelick ne soit jamais dans la communauté à un âge où ce qu'il serait physiquement capable de commettre un crime de ce genre-là. Donc, c'est clair qu'à 88 ans, s'il survit jusque-là, là, pour eux, c'était ça leur théorie. Là. Donc, on doit être dans un état qui prône pas la peine de mort ou des choses, ou du moins l'emprisonnement à vie, là, j'ose croire. Cependant, comme je vous dis, la famille n'était vraiment pas d'accord avec ça. Là. Même Troy, l'ex-mari... a beaucoup chialé, c'est plein dans les médias, c'est plein aux juges aussi, parce que, comme il expliquait, ou comme Nikki, sa sœur, expliquait, oui, même s'il y a une peine plus grave, ça la ramènera pas, Laura ou Jenny, mais en tant que famille de la victime, c'est vrai qu'on dirait que t'as envie que cette personne-là soit encore plus punie pour le geste qu'elle a fait, là. Parce que le crime, il a quand même enlevé une mère de famille à 6 enfants, là. Ça fait mal.
Oui, pour son propre plaisir
de
jouissance érotique.
Puis c'est pas fini, hein. On vous parlait tantôt que Steven avait été suspendu de la police en 2001, en fait, qu'il avait démissionné. C'est qu'il y a eu un autre cas en 2001. Il a fait une autre victime. C'est une femme de Milwaukee qui dit s'être échappée de lui à un moment donné. Elle pense, elle, après coup, qu'elle aura pu subir le même sort que Laura et Jenny. Je vous explique. 13 ans avant que les enquêteurs débarquent pour la première fois chez Steven, il y a eu un rapport de police qui a été fait de West Allis, la municipalité ou le poste de police où ce que Steven travaillait, et qui décrivait en détail l'évasion d'une autre victime de Zelick en 2001. La police a été appelée dans un appartement après qu'une femme vêtue de ses sous-vêtements ait commencé à frapper à la porte d'une voisine en disant qu'elle venait de s'échapper de l'appartement d'en face et qu'un homme avait tenté de la violer. Selon le rapport de police, Zelig a invité la femme à prendre un verre à son appartement. En lui montrant la chambre à coucher, il aurait mis quelque chose dans sa poche de son pantalon qui ressemblait à des menottes. Et lui, il se tenait dans l'embrassure de la porte, les bras et les jambes bien écartés. Tout à coup, il a pris la femme et l'a jetée à terre. Elle a paniqué et elle lui a dit « Est-ce que tu veux me tuer? » Puis Zelig lui a simplement répondu « Est-ce que tu veux coucher avec moi? » Puis elle a réussi à se débattre et à s'enfuir de la pièce.
Mon Dieu, quel tact!
Ben ouais, c'est assez fou, là. Malheureusement, elle a appelé la police, mais la police, elle a arrêté la femme parce que c'est une prostituée.
Okay.
Et à cause de ça, ils n'ont jamais porté d'accusation criminelle contre Zelig. Ça, là, pour moi, là, ça fait un non-sens, là. Parce que Zelig était policier à cette époque-là aussi.
Ben oui.
Là. Donc, la victime, elle a déclaré qu'une fois que Zelig a été arrêté, selon elle, il aurait fallu que Zelig reste arrêté et qu'il y ait une enquête plus approfondie et que s'il avait été arrêté à ce moment-là, il aurait peut-être pu éviter qu'il y ait eu d'autres victimes comme Laura ou Jenny, par exemple. Par contre, les autorités, eux, ils ont un autre son de cloche par rapport à la femme en question. Le chef de police de West Alice, Charles Padgett, a déclaré que les responsables de l'enquête à l'époque avaient déclaré que la femme, elle n'a pas voulu porter plainte, en fait, contre Zelig et qu'elle ne collaborait pas du tout à l'enquête.
OK.
Mais tu sais, d'une certaine manière, j'ai l'impression que je peux comprendre parce que s'ils l'ont arrêté pour prostitution, même si tu as subi une attaque, tu dois être un peu déchiré, là, entre aider les policiers, puis tu sens qu'ils t'aident pas parce qu'ils t'arrêtent même si tu les as appelés parce que t'es presque fait violer. Donc, je peux peut-être comprendre. Par contre, elle dit que c'est pas vrai. Elle nie complètement ça, qu'elle a toujours voulu collaborer à l'enquête. Et suite à ça, comme on vous a dit un peu plus tôt, Steven a quand même démissionné une première fois de ce poste de police-là. Mais ça démontre que, tu sais, 13 ans avant, il a toujours été comme ça, là, de ce qu'on peut comprendre. Puis c'est à cause de ce dossier-là que quand Olatz a appelé les collègues de West Alice qui ont dit justement une histoire d'harcèlement, mais c'était ce cas-là. Donc, qui a mis la puce à l'oreille de tout le monde. Mais c'est drôle que la police protège. Ben, je peux pas dire ça, mais on dirait que de ce côté-là, j'ai l'impression que la police a un peu protégé Steven. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses.
Ouais, il semble avoir eu quelque part, je veux pas dire corruption, là, mais oui,
non.
Ça se peut qu'il y ait eu une forme de protection. Puis c'est même un peu le comportement avec la première femme en 2001 qui a été que Zelig a tenté de violer, ben ça fait un peu partie du problème, tu sais. Même si elle était une prostituée, ben ça veut pas dire qu'on a le droit de la battre ou de la maltraiter. Puis encore une fois, étant donné que qu'elle fait la prostitution, ben ça la gêne d'aller parler à la police parce qu'il y a certains services de police qui vraiment respectent pas ça,
non,
puis sont complètement contre. Donc c'est sûr que ces femmes-là parfois peuvent être victimes de traitements épouvantables juste parce que évidemment ils osent pas aller dénoncer aux policiers parce qu'ils ont peur d'avoir encore plus de représailles étant donné la façon dont elles gagnent leur vie. Donc, c'est un peu une roue malsaine là, qui tourne sans fin puis qui fait en sorte que ces problèmes-là persistent.
Non, t'as absolument raison. Je sais que là, on se remonte en 2001. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolution par rapport au traitement des travailleuses du sexe. Là, disons, un plus grand respect, j'ose croire, même aux États-Unis. Mais quand même, là... Je me questionne vraiment si à l'époque il y avait eu une sanction ou un emprisonnement ou quoi que ce soit, si ça ne l'aurait pas empêché d'agir de la sorte, mais on peut pas revenir en arrière et c'est comme ça, là. Mais toi, est-ce que tu penses que c'était prémédité ces actions-là de Steven ou c'était vraiment un accident?
Ben, on le saura probablement jamais, mais moi, on dirait que j'ai l'impression que Steven était sans doute un prédateur dans l'âme. Tu sais, on le voit au fil du temps. Puis ça, c'est des histoires simplement les histoires qu'on sait. Mais il y en a peut-être d'autres histoires. Tu sais, il y a peut-être harcelé d'autres filles puis qui n'ont pas osé porter plainte. Il y a peut-être même réussi à commettre des crimes en lien avec le harcèlement sexuel. Puis c'est passé sous silence. Donc, j'ai l'impression que j'aime pas le croire, mais j'ai l'impression que c'était peut-être un peu prémédité parce que, tu sais, il a commencé à faire des tentatives de viol comme ça. Il y en a sans doute fait d'autres, là, entre 2001 et 2013, là. En 12 ans, je pense pas qu'il ait été abstinent de cette déviance-là qu'il a. Puis j'ai l'impression qu'il a tenté à plusieurs reprises d'essayer d'autres expériences. Puis c'est avec Jenny Gámez que peut-être il s'est rendu compte que il y a peut-être quelque chose qui le plaisait là-dedans, dans la strangulation qui tourne mal. Donc c'est pour ça. Puis sachant que en plus, il a même pas tenté de la réanimer, il a pas appelé l'ambulance, rien. Ça aurait pu changer tout le scénario en fait. Peut-être même que Jenny aurait été sauvée. Puis grâce à ça, mais il aurait pas fait Laura comme prochaine victime.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est pour ça que j'ai un peu l'impression que c'était peut-être prémédité cette histoire-là, là, étant donné qu'il l'avait fait une fois, qu'il avait décidé de le refaire une autre fois, puis il l'a peut-être fait même à d'autres reprises.
Ah ben oui, moi je me questionne à savoir s'il n'y a même pas eu d'autres victimes, et quand je parle de victimes, d'autres femmes mortes, parce que des gens disparus, pas retrouvés, il y en a peut-être eu ailleurs aussi. Là. Mm-hmm. Peut-être que ça s'est restreint à ces deux-là seulement, mais... Je suis pas capable d'éliminer à 100% l'hypothèse que peut-être fait d'autres victimes puis que les corps n'ont pas été retrouvés non plus là.
Ben oui, on a presque un profil de tueur en série ici là ou potentiel même. Puis en plus sachant qu'il vient des forces de l'ordre, c'est encore plus troublant, je trouve.
Ah oui, vraiment. Hein. Mais c'est ça. Hein. On dirait que ben tu sais, c'est pas parce que t'es policier que t'es sain d'esprit nécessairement. Hein. Il y a toujours dans tous les cadres de métier, dans tous les cadres de métier, il y a toujours un peu des gens déviants. Puis c'est vrai qu'on a tendance à penser que les policiers, c'est des gens droits. Mais ils sont droits, là, mais qu'il n'y aurait pas d'exception. Mais on le voit encore une fois qu'il y a toujours une pomme pourrite à quelque part. Là.
Ben oui. Puis toi, qu'est-ce que t'as pensé de toute cette histoire-là, Seb?
Ben moi, je suis assez mitigé. Je suis un peu comme toi. J'ai l'impression qu'avec Jenny, c'était un accident. Et qui en a peut-être trouvé du plaisir, justement. Là, quand il voyait qu'elle était sur le bord d'étouffer, j'ai l'impression qu'il a vraiment ressenti un plaisir. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas appelé. Là. Je ne suis pas sûr qu'il a tant paniqué que ça. Et il a répété la même chose avec Laura. Je donne un bénéfice du doute aussi, dans le sens que peut-être que même avec Laura, l'objectif n'était pas non plus de la tuer. Là. Mais ça, on ne le saura jamais. Puis sachez que le site ColorMe... .com, il n'existe plus et même qu'actuellement, il appartient à personne. Ce qui est quand même quelque chose de rare sur Internet qu'un nom de domaine, il n'y a pas toujours un site web sur tous les noms de domaine, mais souvent, il est acheté par quelqu'un. Là, actuellement, de ce que je voyais, il n'y a pas vraiment de propriétaire. On dirait que à cause de toute cette histoire-là, il n'y a personne qui voudrait le racheter et s'associer à ça, puis je le comprends aussi. Là. Mais il y a d'autres sites qui ont émergé suite à la fermeture de ColorMe. Il y a eu le site Miss Biza, en fait Miss BESA.com, puis il y a aussi le site dont tu nous parlais tout à l'heure, le Fat Life, là, qui est par rapport au financial, au fétiche en fait. Là.
Oui, c'est ça qui est un peu un réseau social, un Facebook de gens qui ont un kink, là, donc un genre de fétiche, oui. Justement. Ben oui, nous, en fait, on juge pas les gens qui vont sur ces sites-là.
Non, pas du tout, c'est pas...
Il y a plein de choses intéressantes, je présume, pour les gens à qui ça intéresse.
Ben oui.
Mais c'est ça, faut pas oublier que, justement, des prédateurs comme ça, comme Steven Zelick, il peut en avoir n'importe où, puis c'est pas juste les jeunes, hein, qui peuvent être des victimes. Parfois, c'est les adultes aussi, donc... C'est une histoire très triste. J'ai l'impression, encore une fois, qu'elle aurait peut-être pu être évitée. Mais encore une fois, c'est une histoire qui a été résolue grâce aux preuves en ligne puis au travail de ce fameux Jeff là, qui est un peu un hacker ami de Laura qui, lui, a fait des travaux que même la police n'avait pas réussi à faire ce moment-là. Donc c'est une histoire qui était pertinente, je pense, pour Distorsion puis pour notre communauté.
Tu sais, je reviens un peu à Laura là, par rapport à ses nouvelles habitudes de BDSM. On n'a jamais su si elle pratiquait ça avant avec son ex-mari. J'ai l'impression que la solitude et tout ça l'a amené vers ça. Parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas attiré par ça au départ, puis même à son âge, tu sais, généralement, plus on vieillit, pas qu'on reste dans nos pantoufles, mais c'est en vieillissant, c'est moins là qu'on
elle l'aurait découvert sur le tard.
Oui,
peut-être.
C'est ça. Puis je me demande qu'est-ce qui a pu l'amener vers ça. Tu sais, ça, j'ai l'impression que quand t'es en dépression, que tu vis tellement des choses tristes que ça doit te... Ce sentiment-là de domination doit t'amener à autre chose. Mais j'avais lu aussi que les gens qui aiment se faire dominer aussi, c'est souvent des gens qui ont, eux, dans leur vie, ils ont le contrôle sur tout.
Donc, il aime un peu s'échapper d'avoir le contrôle et de se faire dominer. Parce qu'elle, avec la gestion, tu sais, on dit 6 enfants parce qu'il y en a une de morte, mais il n'y a pas si longtemps, elle avait 7 enfants aussi en garde partagée. C'est une aide-soignante, donc c'est pas toujours facile comme métier aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il fallait qu'elle ait le contrôle sur sa vie. Puis j'ai l'impression qu'elle est allée vers ça pour, justement, un peu comme on le disait, c'est un échappatoire, mais ça semble être un pattern pas récurrent, mais qui est souvent présent. Des gens qui ont le contrôle, mais qui cherchent plutôt à être dominés dans une portion de leur vie sexuelle.
Oui, ou encore, moi, j'amènerais une théorie alternative. Oui. Je sais qu'il y a des gens dans la domination, en fait, que ce qu'ils recherchent, d'une certaine façon, c'est une forme de liberté. Parce que la soumission, en fait, certains voient la soumission comme l'expression de la liberté. Parce que quand t'es libre de choisir tout dans la vie, puis tu choisis la soumission, ben il y a aucun acte qui est plus libre que
oui,
ça.
Donc, c'est vrai.
C'est une façon de penser un peu alternative, mais que je réussis à trouver un fondement
Oui.
Donc, elle qui vivait beaucoup d'angoisse, de challenge dans sa vie personnelle, qui sentait peut-être pas justement qu'elle avait le contrôle à ce moment-là, mais pour elle, peut-être qu'elle sentait qu'elle retrouvait sa liberté dans ces pratiques-là.
Mm-hmm. Ça fait du sens, oui.
C'est une théorie parmi tant d'autres.
Oui, oui, oui.
Chers distordus, on vous laisse nous dire ce que vous pensez de cette histoire-là et de nos théories sur le BDSM. Vous pouvez le faire sur notre groupe privé de discussion sur Facebook. Vous avez juste à le trouver, faire une demande et nos modérateurs risquent de vous accepter si vous n'avez pas l'air trop louche.
Non, et tout ce qui est dit là, ça reste entre nous.
Oh oui. Et sinon, vous savez toujours où nous trouver. On est sur Instagram au Distorsion Podcast. Même chose sur YouTube et sur Facebook. Sur Twitter, on est Distorsion Pod. Et puis, c'était encore un plaisir, mon cher Seb, de traiter d'une histoire étrange avec toi ce soir.
Pour conclure cet épisode, mon cher Émile, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous?
En guise de prévention, ne surveillez pas seulement ce que vos enfants font sur le web, mais aussi ce que vos parents font. Ça pourrait éviter beaucoup de tracas.
Oh oui. Yes.